www.radio-g.fr.
I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck. That day, I cut my throat.
Salut et bienvenue dans Band Geek Mafia. Band Geek Mafia, c'est votre émission Infoculture tous les mercredis à 19h sur Radio G. Salut Seb.
Salut à tout le monde. Salut Seb. Salut Anaïs.
Salut, salut les deux Seb. Et bonjour à tous les auditeurs et belle année à tous les auditeurs, parce que j'avais pas eu l'occasion de leur souhaiter la bonne année.
Et moi je dis pareil. Meilleur vœu à tout le monde.
Que tout le monde s'aime, c'est magnifique.
Oui.
Alors de quoi vous allez nous parler ce soir, Seb? Je vois des BD devant toi.
Bah comme d'habitude, hein, pour pas changer, hein, autant ne pas changer une équipe qui gagne. Hein, donc des bandes dessinées.
Et toi Anaïs?
Alors film, alors ancien et puis récent, et aussi une petite série.
Voilà, et puis bien sûr de la musique, tout ce qu'on aime. Et on démarre l'émission avec un peu de Bashung. Allez, ah, je me suis replongé dans l'album qui est posthume, qui est sorti l'année dernière. Et puis finalement, il y a quand même... C'était très beau, mais un peu sombre. Il y a un très très beau titre qui s'appelle « Ma peau va te plaire ». Et c'est maintenant, dans Band Geek Mafia, sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le point.
Il est fort.
Ouais.
Je suis cette femme à qui l'on ne promet rien. Je suis cette femme qu'on ne prend pas par la main. Cette femme qui ne vaut presque rien. Je suis cette femme qui s'est donné du bien. Serre-moi encore et ma peau va te plaire. Sors-moi de terre. Je suis cette femme à qui pas par la main.
Et voilà, c'était Alain Bashung avec Ma peau va te plaire dans Bande Geek Mafia. Et oui, vous l'avez deviné, c'est le cinéma.
Ah bon ?
Anaïs, tu as vu Marriage Story ?
Oui, tu l'as vu aussi, oui. A priori. Exact. Alors, j'ai découvert ce film il y a peu. C'est donc sorti sur la plateforme
NX,
donc on connaît bien, fin 2019. On retrouve au casting Adam Driver et...
Excellent. Scarlett Johansson.
Alors, contrairement au titre...
On se calme.
On s'imagine une histoire d'amour. Bah, moi, en fait, clairement, j'ai été sur la plateforme, j'ai cherché une petite comédie romantique, j'ai vu Marriage Story, je me suis dit, oh, pourquoi pas. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'on imagine.
Non.
Puisque c'est pas forcément l'histoire d'un amour, mais c'est plutôt l'histoire d'un amour qui se termine.
Oui.
Donc, Charlie et Nicole, les deux personnages principaux, se sont beaucoup aimés. Et ils décident de se séparer. On ne sait pas trop pourquoi.
On le comprend au fur et à mesure.
On ne sait pas qui est à l'origine. Lui, donc Adam Driver, est metteur en scène à l'avant-garde de la création théâtrale new-yorkaise. Mmh. Elle, Scarlett Johansson, une actrice ayant renoncé à une carrière à Hollywood pour jouer exclusivement dans ses pièces. Ils ont un fils, Henry, qu'ils chérissent et leur vie semble a priori parfaite. C'est du moins ce que nous laisse penser la première scène, la scène d'ouverture qui est vraiment super.
Oui, c'est vrai.
Du film où chacun nous raconte ce qu'il aime chez l'autre et dresse à la manière d'une comédie romantique le profil du conjoint idéal.
Sauf que ça ne va pas durer.
Et ouais, la réalité est malheureusement plus triviale. C'est un conseiller conjugal qui les a obligés à se livrer à cet exercice pour positiver et tenter une ultime médiation. Elle refuse. Et l'inéluctable survient, surtout lorsque Nicole décide de repartir à Los Angeles et que les avocats s'en mêlent.
Parce que ça, c'est important, ils habitent à New York, mais elle veut rentrer à Los Angeles.
Voilà. Et au début, ils décident de ne pas prendre d'avocat. C'était
À l'amiable.
À l'amiable. Et finalement, des avocats vont s'en mêler. Très bons, les acteurs qui jouent les avocats. C'est des acteurs assez connus aussi.
Oui, d'accord.
Pendant que Seb recherche les noms de ces acteurs.
Alors ils sont
très
connus, hein, ils ont fait de très nombreux films.
Ils sont connus. C'est pas des personnages principaux.
Non, pas du tout, en fait on les voit très peu.
C'est des seconds couteaux comme on dit.
On voit surtout Adam Driver et Scarlett Johansson. Ah oui, c'est Laura Dern et Ray Liotta.
Voilà, qui jouent les deux avocats. Donc voilà, on va suivre les reproches, les disputes, les paroles qu'on aurait aimé souhaiter ne pas prononcer prennent le pas sur leur volonté de divorcer, donc à l'amiable. Donc c'est la seconde collaboration de Noah Baumbach sur la plateforme, qui s'est inspirée de son propre divorce avec l'actrice Jennifer Jason Leigh pour nous livrer donc cette chronique assez sensible et émouvante de la fin d'un couple dont l'enjeu est, au-delà de la garde de leur fils, est celui d'un territoire artistique que l'on se choisit, New York ou Los Angeles. Mm. Voilà, moi j'ai trouvé ça assez juste. Je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes.
Moi je trouvais que c'était un très bon film, mais c'est un peu triste.
Ouais. Et il y a aussi Alors au début on ne sait pas trop, mais je trouve qu'au fur et à mesure du film, on a quand même un parti pris pour un des deux personnages.
Oui, mais alors selon qu'on est un homme ou une femme, à mon avis, on n'a pas le même.
Eh ben, moi, je trouve qu'on retrouve le parti pris masculin. Je trouve que ça se ressent.
Ah bah, pas forcément, parce
du film, mais plus on.
Ah bah, moi, j'avais pas le même sentiment. Ah. Tu vois, c'est drôle parce qu'à un moment donné, on apprend quelque chose, et là, on se dit bon bah, il a fait une connerie.
Oui.
Bon, bah, on peut pas tout dire.
Non, on peut pas tout dire. Mais
donc,
voilà.
Là, si tu veux, bon.
Mais
assez équilibré,
ouais.
Moi je trouve.
Ouais. Mais on se rend bien compte que c'est jamais simple et que,
ah non, c'est très compliqué.
Et que finalement il n'y a pas une vérité, il y en a plusieurs.
C'est ça,
et
on a plusieurs points de vue, ça c'est intéressant.
Ouais. Ça on le sait déjà, hein, que la vérité est ailleurs. Mais en tout cas, là ce que vous êtes en train de nous décrire comme film, moi ça me fait penser à un film aussi qui avait été réalisé, alors je pense que ça devait être dans les années 90, sur le divorce justement, La guerre des roses.
Oh, mais c'est un vieux film, ça.
Oui,
les années 80 même.
80, oui, 90-80.
Mais c'est une comédie.
Oh, oui, là, on rigolait bien quand même.
Mais là, ça n'a rien à voir.
Mais ça se terminait mal.
Mais qui n'est pas ressorti d'ailleurs, qui a été refaite, non ? Vous parlez des années 80, j'ai l'impression que le film était
avec
plus récent.
Il y a peut-être eu un remake.
Oui, il y a peut-être eu un remake. Avec c'était Michael Douglas qui jouait.
Oui, mais c'était une espèce de comédie un peu fantastique, enfin un peu délirante.
Très délirante.
Là, c'est pas du tout ça. Un Marriage Story, en fait, ça commence comme une comédie romantique, et en fait, c'est un film dramatique.
Oui.
Mais voilà, donc c'est pas très drôle,
en fait. Il y a une superbe scène de dispute.
Oh là là, c'est énorme.
Elle est,
les acteurs sont extraordinaires.
Ouais.
Ils sont tous nommés aux Oscars, aux Golden Globes et tout ça.
Ah bah.
Adam Driver, il est bien parti pour avoir l'Oscar.
Ouais, il y a 6 nominations aux Golden Globes. Ouais. Donc à suivre.
Oui, mais nomination ne veut pas dire aussi obtention.
Alors Adam Driver, vous le connaissez parce qu'il joue Kylo Ren dans Star Wars.
Mais moi, c'est vrai que c'est je l'avais jamais vu ailleurs que dans Star Wars. Et effectivement, de le voir dans un autre rôle, on se rend compte de ses.
Mais c'est d'abord un acteur de films d'auteur, de films indépendants. Et Star Wars, c'est vraiment nouveau pour lui.
Bah, il a fait aussi Black Clansman aussi.
Oui, c'est vrai. Il a joué dans Black Clansman, ouais.
Oui, que je n'ai pas vu. C'est pas pour mal. Ça que je vous fais les yeux ronds.
Pas mal, c'est l'histoire d'un noir qui veut rentrer dans le QQ.
Qui réussit à
pénétrer. Oui, non, mais faut pas tout dire.
Oui, mais après, voilà. Après, on va réfléchir quand même un petit peu comment est-ce possible. Mais tout est possible.
Donc.
Un
bon film, pas forcément pour se détendre, mais vraiment, c'est pas super gay, quoi. Mais à voir. Ouais.
C'est vrai que les films, même au cinéma en ce moment, sont pas super gays, parce que il y a un film chinois là qui est sorti qui s'appelle Le Lac aux oies sauvages. Alors moi, les critiques sont super bonnes. Moi, je pensais que ça allait vraiment me plaire, et en fait, des amis qui l'ont vu m'ont dit que c'était hyper glauque, hyper sombre. Je sais pas si je vous le conseille ou pas, je l'ai pas vu, ça s'appelle Le Lac aux oies sauvages. Les critiques donc dans les magazines comme Télérama sont dithyrambiques, mais les gens quand ils sortent de la salle, ils sont un peu perturbés parce que c'est assez lugubre, quoi. Assez
d'accord.
Lugubre,
voilà.
Alors, c'est l'histoire d'un mec qui se balade autour d'un lac et qui tue toutes les oies. C'est ça, non?
Non, c'est l'histoire de gangster en cavale, c'est l'ambiance, quoi, qui est pesante. Faut pas que tu regardes ça, Naïs.
Non, pas en ce moment. Oui, je ne vous parlerai pas ce soir d'une série que j'ai vue récemment qui m'a causé beaucoup de cauchemars. Donc je n'en parlerai pas.
Voilà.
Voilà.
Ou alors, on va éviter les cauchemars. Ouais.
Je voulais vous parler d'un autre film, alors pour le coup qui n'est pas récent, en lien quand même avec l'actualité. Il y a un film qui vient de sortir là, maintenant, qui s'appelle Play. Qui est une deuxième comédie sortie par le duo de Max Boublil et Anthony Marciano, où c'est une comédie générationnelle. Hein. On filme à la caméra subjective et on parle des souvenirs de l'enfance du personnage. Voilà. Et en fait, cette histoire m'a rappelé un film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Boyhood. Qui est vraiment particulier, donc j'avais envie de vous en reparler ce soir pour ceux qui seraient passés à côté et qui auraient envie de le découvrir. C'est un film qui a été tourné sur 12 années, donc c'est Richard Linklater, je ne sais pas si je le prononce correctement, qui a réuni les mêmes acteurs sur 12 ans pour une chronique familiale. Est-ce que vous l'avez vu, les
non.
Seb
Non, je n'ai pas vu.
Donc en fait, on suit l'histoire de cette famille pendant 12 ans.
J'en ai entendu parler, mais c'est vrai que j'ai pas.
Et ce qui est énorme, c'est qu'on voit vraiment les acteurs qui vieillissent. Et aussi, on voit la vie autour qui évolue, les technologies qui changent.
Ah oui. Les paysages qui changent.
Et voilà. Et donc, on suit cette histoire, cette chronique familiale sur ces 12 années. Et voilà, moi, je trouvais ça formidable. Les acteurs, c'est donc Ethan Hawke et Patricia Arquette.
Excellent.
Du côté, donc, le père et la mère de la famille. Les enfants sont un peu moins connus. Mais voilà, très très bon film que je vous invite aussi à découvrir en lien avec ceux qui vont voir Play. Peut-être qu'ils auront envie d'aller voir Boyhood ensuite.
En streaming. Ça marche. Merci Anaïs.
De rien.
Allez, on s'écoute un petit Black Sabbath dans Bande Geek Mafia sur Radio G. Voilà, c'était Black Sabbath.
Yeah.
Children of the Grave dans Mangeek Mafia. Et c'était pour Eric et Marie.
Salut Eric, salut Marie.
On vous fait des coucous.
Children of the Grave.
Yeah. Alors tout de suite, la suite, on va bien sûr parler BD avec Seb. Wow. Tu es d'accord, j'espère.
Oui, mais bien sûr. Moi, je suis d'accord.
Bon, moi, c'est cool alors.
Tout va bien.
Et moi aussi, je suis d'accord.
What you call me? Well, if you give me a chance, I was gonna call you a crazy pig fucking dumbass pussy piece of shit. Oh, brother, you's a dead man.
À toi, Seb.
Are you talking to me?
Voilà, c'est ça.
Bon, alors, eh ben, on va essayer de garder le même niveau, à peu près. Alors, on va commencer par une petite découverte aux éditions Delcourt. Alors, La Fontaine aux Fables. 36 fables de La Fontaine interprétées en bande dessinée. Il n'y a rien de nouveau. Mais alors là, vraiment rien de nouveau sous le soleil. Hein,
non, c'est les fables de La Fontaine.
C'est les fables de La Fontaine, c'est tranquille, c'est sympa. Mais alors, par contre, lorsque l'on ouvre, waouh, c'est le choc.
Ah oui.
C'est le choc visuel. Hein. C'est vraiment, vraiment superbement bien fait. C'est-à-dire que chacune des 36 fables est illustrée par un auteur différent, quoi, par un dessinateur différent. Et ce que je trouve extrêmement agréable, c'est que par rapport aux fables qui ont été choisies, on va certes retrouver le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi.
Oui, les classiques.
Les grands classiques que l'on connaît. Mais on en a d'autres aussi que l'on ne connaît pas forcément, parce que bon, l'œuvre de La Fontaine
oui,
est quand même...
Il y en a énormément.
Il y en a quand même un gros paquet. Et du coup, on a aussi quelque chose, voilà quoi. Le dessin vient illustrer parfaitement le texte, ou le texte illustre parfaitement le dessin. Donc on a un assemblage et on a un bouquin qui est carrément génial. Et moi, je vous le conseille, parce que franchement, avec de jeunes enfants, eh ben, vous pouvez sans aucun problème leur faire apprendre des fables, vous pouvez leur faire lire, ils comprennent, ils adorent le dessin, donc ça marche nickel. Quoi.
En tout, il y a 243 fables de
La Fontaine. Là, on en a 36. On a le loup devenu berger, le chat, la belette et le petit lapin, l'huître et les plaideurs, je ne connaissais pas celui-là, le lion et le moucheron, le renard et le bouc, les deux mulets, la chauve-souris, les deux belettes.
Ah, la chauve-souris.
Le chien, le loup, le chat et le renard, le loup et l'agneau, le corbeau et le renard et la cigogne, l'éléphant et le singe, de Jupiter, la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, le coq et le renard, les deux coqs.
Tu nous les fais toutes là.
Ouais, je vous les fais toutes. Hein,
mais... Non, mais non.
Donc voilà, mais vraiment, 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 c'est carrément super. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne découverte aux éditions Delcourt. Comme ils disent en quatrième de couverture, source intarissable d'émerveillement, les fables de La Fontaine ne cessent d'irriguer notre imagination tout en distillant génération après génération leur malicieuse sagesse. 36 de ces histoires sont ici adaptées en bande dessinée par des dessinateurs de haut vol. Ces interprètes passionnés ont voulu faire partager le plaisir qu'ils ont éprouvé à redécouvrir les fables, parfaitement fidèles au texte original. Ils font vivre la comédie animalière de La Fontaine avec une exubérance et une jubilation communicative.
C'est coloré, ça... C'est une petite pépite, je trouve.
Moi, je trouve que c'est vraiment une petite pépite. Vraiment à voir, c'est carrément génial. Alors là...
Éloigner les enfants.
Éloigner les enfants.
On passe vraiment
maintenant
du coq à l'âne, si voilà, j'ose dire.
Ça. Tout à fait.
Ça pourrait être une fable de La Fontaine, ça, du coq à l'âne.
Du coq à l'âne. Alors, disons que là, nous partons aux éditions Fluide Glacial. Déjà, ça pose un petit peu le cadre. En ce mois où, finalement, on parle beaucoup de Star Wars, on a Aubion et Bernstein qui nous font Star Fiction.
Ouh là là.
Alors.
Avec un X.
Avec un X, un gros X rose.
Rose.
Et en quatrième de couverture, bah c'est tout simple. Et si le scénario de Star Wars tombait entre de mauvaises mains?
Que
se serait-il passé? Alors,
j'ai très peur.
Oui, vous pouvez commencer à avoir très très peur. Parce qu'effectivement, nous revenons... Alors, c'est une uchronie. Hein,
ah oui,
c'est, on part vraiment sur quelque chose.
C'est comme ça, c'est une uchronie.
C'est une uchronie, direct. Alors, c'est complètement barré. On commence... par la première page, où l'on voit un pauvre réalisateur,
un producteur de films,
voilà, qui croule sous les dettes, sous les lettres, non pas de propositions de scénario, mais finalement d'avis d'imposition et de taxes non payées, quoi. Donc en clair, il n'a pas trop le choix. C'est soit il trouve un super scénario et ça marche pour lui, ou alors, bah, il va être obligé de partir à faire des films porno.
Oh là.
Voilà.
finalement,
il va mélanger les deux.
C'est ça. Et finalement, de grand désespoir, il finit par accepter un scénario d'un jeune scénariste plutôt qui s'appelle un certain George
Lucas.
Qui lui, bah voilà, est complètement dans son film. Et puis bon, bah voilà quoi, c'est le seul scénario qu'il a sous la main. Il est obligé de faire quelque chose, mais il se doute bien que ça va peut-être pas marcher parce que ce producteur aime beaucoup faire les films de science-fiction. Mais alors ces films de science-fiction, ça marche pas quoi. C'est le camping spatial, hein, c'est à peu près ça. C'est le titre de son dernier navet qui a été un échec. Et donc, du coup, il s'est dit, on est bien obligé de prendre ce scénario, hein, de désespoir, il pleure, il en peut plus, et puis voilà. Et donc, on a le jeune George Lucas qui, lui, est plein d'enthousiasme, qui pense qu'il va faire un grand film de science-fiction. Oui, mais on lui dit pas tout à George Lucas. On lui dit pas tout. D'ailleurs, on lui interdit de venir sur le tournage. Hein, parce qu'il est hors de question qu'ils mettent le pied sur le tournage, parce que bien sûr, Star Wars va virer, non pas du côté obscur, mais du côté rose. Il va virer au cauchemar. Donc voilà. Et donc on a toute cette histoire de cette réalisation de film jusqu'à la première, où là, malheureusement, George Lucas invite ses parents à venir voir le film. Et vous découvrirez la suite en lisant cette bande dessinée qui est complètement déjantée. Moi, je vous la conseille.
J'ai peur de ce qu'ils vont faire à R2D2.
Et sur la longueur, ça va ? C'est-à-dire que. Enfin, je me comprends. Ça doit être drôle au début, mais après, est-ce que ça tient la route ?
C'est drôle. Alors, il y a un truc aussi en même temps, parce que bien sûr, on se dit, pornographie, il y a des images.
Enfin, c'est pas
non. Et on est comme George Lucas, finalement.
George Lucas, ouais.
Comme genre, on est là, paf, on ne voit rien. On ne voit rien.
Ah bah
on voit rien, mais on a.
On
voilà
comprend,
quoi.
On comprend,
mais c'est superbement bien fait.
J'ai une scène avec un sabre laser.
Oui,
là
alors
là,
ça,
oh
c'est.
Là,
non, là, là,
on se demande à quoi il a servi.
Ben oui, ben Georges aussi.
À ne pas mettre entre toutes les mains.
Non, mais à pas mettre entre toutes les mains. Mais franchement, là, on passe quand même un bon moment.
Troisième BD, Seb.
Troisième BD. Alors là, ça, c'est une.
J'adore parce que les trois BD sont complètement différentes.
Ah, mais ça, c'est éclectique. Hein.
C'est très éclectique. J'aime bien le 110 mètres.
Ouais. Alors, c'est.
Tu peux me passer Star Fiction, ça.
Bon, allez, voilà.
On termine pas forcément sur la plus gaie, peut-être, non ?
Non, c'est pas la.
Vu le dessin de la première de couverture.
Ouais, c'est justement. Alors, là, c'est un concept qui est quand même assez particulier parce que, donc, on a un seul auteur, c'est Raphaël Messant. Qui a proposé aux éditions Delcourt de faire un triptyque sur intitulé Les Damnés de la Commune. Alors là, on part pour ceux qui sont un petit peu férus d'histoire. Je sais pas, il y en a peut-être autour de cette assemblée. Donc, là, on se retrouve plongé dans la France de 1870-1871, guerre contre la Prusse. On vient de se prendre une déculottée royale, comme on peut dire. La Commune de Paris, donc le peuple parisien, lui, se révolte contre le pouvoir un petit peu monarchiste qui s'était installé sous des aspects républicains, finalement, à Versailles. Et donc, on va suivre, à travers ces trois volumes, puisque là, maintenant, la série, elle est complète. Le dernier volume est paru fin du mois de décembre, à peu près. Donc là, la série, elle est complète. Et donc, on va suivre, justement, toute cette histoire de la Commune. Alors, le principe, il est un petit peu particulier, parce qu'en réalité, on n'a pas un dessinateur, on a un auteur, un scénariste, et il est parti sur l'idée que son histoire va donc être illustrée par des gravures et des gravures d'époque. Donc avec un redécoupage, bien sûr, éventuellement, mais donc lui va créer les dialogues qui vont se greffer sur ces images qui vont justement appuyer. Alors là où il est très très fort, c'est qu'il n'est pas du tout historien, hein, c'est quelqu'un qui est totalement étranger à ça, mais il est parti là-dessus. Donc il a épluché des masses documentaires, alors ne serait-ce que déjà au niveau de toutes les gravures. Hein, pour, c'est incroyable. Au niveau des textes, il a été cherché dans les sources primaires, hein, c'est-à-dire il a été à l'Assemblée nationale, il a pris les registres des discours de l'époque, il a extrait les morceaux, les passages. Et donc voilà, donc au début, le tome 1, on commence comme une enquête policière. C'est, si on veut aller par là, il s'aperçoit qu'il y avait un certain Lavalette, qui habitait son immeuble, qui était donc un communard, un des chefs communards, quand même assez connu. Et puis bah, lui, il a voulu savoir qui c'était. Et du coup, il va suivre la trajectoire de ce Lavalette. Il va refaire l'histoire de ce Lavalette, tout en s'appropriant aussi l'histoire d'une autre femme qui, elle... je me souviens plus de son nom. J'ai mangé son nom, la pauvre.
C'est pas grave. On lira le livre.
Oui, lisez le livre. Et du coup, c'est extrêmement intéressant. Et alors, ce qui est encore plus triste et plus inquiétant, c'est qu'au vu du contexte actuel, quand on lit cette bande dessinée, bon, on ne ressort pas forcément très très gai.
D'accord.
Et surtout, il y a des éléments qui font écho, parce qu'il y a certains passages, on s'aperçoit que certains de nos hommes politiques qui ont pu faire quelques réflexions sur les petites gens, comme on peut dire, et ben, ces réflexions étaient déjà faites.
Bien sûr.
Par les politiques, puis ça n'a pas beaucoup changé.
Donc, encore la lutte des classes. Quoi.
Bah, oui, bah, c'est la lutte des classes, quoi, directement. Et puis en même temps, ça pose la question sur plein de choses. Et moi, je vous conseille, parce que là, ça oblige vraiment à réfléchir aussi en même temps. C'est extrêmement bien fait, c'est trois tomes, c'est très très riche, c'est très très dense. Graphiquement, c'est vrai que là, les gravures de l'époque... C'est magnifique, elles sont vraiment remplies de détails. Franchement, moi je vous le conseille parce que là, on apprend des choses et puis on réfléchit aussi.
Il y avait une très bonne BD de Tardy qui s'appelait Le Cri du Peuple, qui était sur la commune aussi.
Oui.
C'était super bien.
Tout à fait. Bah, d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'à un moment, il fait intervenir Tardy aussi comme un sorte de voyageur dans le temps, donc à l'intérieur. Il y a des petits clins d'œil comme ça, mais autrement, la base, elle est vraiment, vraiment superbe. Moi je vous le conseille vraiment.
Merci,
ça, c'est
Seb.
Vraiment... Super.
On imagine le travail quand même, parce que je suis à la fin. Non, mais je, les références des documents, quand tu vois la pile de
listing de sources,
c'est... Ouais.
Ah oui, non, mais là, c'est un véritable travail.
On clôture le sujet, mais ça a l'air passionnant.
Merci, et puis on écoute un petit morceau de musique. C'est Paul qui m'a demandé Thérapie Taxi avec Roméo Elvis.
Cool.
It's Sale.
Eh, merci, Paul.
Dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
Yes, 101.5, la radio qui fait le point.
C'est parti.
Y'a les phrases que tu dis, les phrases de mec facile, les phrases que j'oublie, bourré dans la nuit. Et ton corps qui se tord, seulement pour me plaire. Mais tu sais, moi je mens, tes rêves imaginaires.
Y'a des bugs dans ma tête,
tes rêves imaginaires.
Y'a des bugs dans ma tête,
quand j'écrase ma cigarette.
Ici tout le monde déraille, t'es 100 fois trop, 100 fois trop bonne. T'as bugué
nos entrailles,
t'es 1000 fois trop, 1000 fois trop sexe. Continue à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon castal. Tu continues à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon castal.
Je manque d'applications comme les GSM. T'as réparé le mal que j'avais laissé. T'es mille fois trop bonne pour que j'aie le seum. Mais là tu me contrôles et ça tu le sais. Tu continues à danser sur des hits sales. T'as mis un pull XL, on voit quand même tes lolos. J'pourrais être ton beau gosse, j'pourrais te faire du viscard. T'allumes toutes les flammes et j'suis docile comme un bolos.
Ici tout le monde déraille. T'es 100 fois trop, 100 fois trop bonne. T'as bugué
nos entrailles.
T'es 1000 fois trop, 1000 fois trop sexe. Tu continues à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon castal. Continue à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon castal.
Y'a des centaines de guerriers prêts à tout tenter pour moi. À saigner pour la gloire de voir mon corps s'asseoir près d'eux. Une pensée viscérale qui finit par les rendre dingues. Mon odeur comme hôtel, les autres sont blasphèmes. Ici
si tout le monde déraille. Je suis 100 fois trop bonne.
Ici tout le monde déraille. T'es 100 fois trop bonne. T'as payé
nos entrailles.
T'es 1000 fois trop sexe. Tu continues à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon castal. Tu continues à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon castal. Tu continues à danser sur des hits sales.
Si tout le monde est là.
Tu continues à danser sur des hits sales.
T'es 100 fois trop bonne.
Tu continues à danser sur des hits sales.
T'as mis un pull XL, on voit quand même tes lolos. J'pourrais être ton beau gosse, j'pourrais te faire du viscard. T'allumes toutes les flammes et j'suis docile comme un bolos.
Voilà, c'était Thérapie Taxi et Romeo Elvis avec Hits Sales dans Band Geek Mafia.
Yes.
Alors tout de suite, eh bien, on va parler de série, Anaïs. C'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Alors, je te mets...
J'ai un problème de casque.
Un petit
soir.
Jingle, quand même.
Oui,
sinon, on a des choses plus classiques.
C'est-à-dire, est-ce que tu aurais quelques exemples?
Ah, évidemment. Ah, bah, moi, j'adore, c'est ça.
Oui,
générique
très classique.
De Six Feet Under. Alors, on va démarrer cette chronique série. Avec les séries qui ont marqué 2019. Alors, dans plein de magazines, on a des tops, hein, des top 10, des top 5, des top 3.
Il y a aussi des flops.
Avec Olivier, la semaine dernière, salut Olivier, on a fait un petit top, un top cinéma, hein, notre top 3 du cinéma de l'année dernière, mais là, on n'a pas parlé des séries, donc c'est maintenant. Alors, excellente série, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est Tchernobyl.
Ah oui.
Tchernobyl, excellente série, donc qui traite de la catastrophe évidemment de Tchernobyl.
C'est gay ce soir, moi,
mais avec un réalisme glaçant. C'est une mini-série de HBO donc qui retrace cette catastrophe qui a failli quand même rayer de la carte une partie de l'Europe, hein, il faut le dire. Et donc on est plongé, c'est assez bouleversant, hein, dans ces angoisses contemporaines. Donc c'est à voir sur OCS si vous l'avez pas vu, Tchernobyl.
Et ce qui est fou, c'est qu'il y a un vrai suspense alors qu'on connaît l'histoire, mais finalement ça arrive à nous captiver, on a envie de savoir plus quoi.
Mais disons qu'elle
on connaît la fin.
On connaît la fin, mais elle est particulièrement bien faite.
C'est très réaliste. Alors deuxième série moi que j'ai adoré, c'est Mindhunter, la saison 2. Je sais pas si vous aviez vu la saison 1. C'est si vous êtes fasciné comme moi par les tueurs en série, ça va vous plaire. En fait, c'est une série de David Fincher, le grand réalisateur américain, qui adapte les mémoires d'un ancien du FBI. En fait, un ancien profileur du FBI qui a créé en fait le concept de tueur en série dans les années 70. Et ici, en fait, on est tiraillé entre les agents du FBI et puis les meurtriers, hein, qui sont traqués par ces agents. Et on se demande qui sont les plus dérangés, en fait, finalement. Et donc, la saison 2 continue à jeter le trouble. Et c'est vachement bien. Voilà, Mindhunter. Et puis Seb, bien sûr, on ne peut pas ne pas parler de Watchmen, la saison 1,
dans
cette version alternative de l'Amérique, les policiers se masquent et les suprémacistes attaquent.
Oui.
Alors je sais que tu as découvert récemment la BD, le comics Watchmen, qui est un chef-d'œuvre, mais cette série de Damon Lindelof, celui qui a fait The Leftovers, je sais pas si vous avez vu, ça prolonge en fait le roman graphique d'Alan Moore, et c'est un des chocs de l'année.
Ah bah tout à fait, c'est vraiment le choc. Alors moi c'est vraiment la série que je retiens de l'année dernière, hein. c'est vraiment celle-là, c'est un choc. Tant au point de vue réalisation, point de vue intrigue, je me suis laissé prendre, mais vraiment par la main, du début jusqu'à la fin. Et là je suis en train de trépigner avec impatience pour attendre la saison 2, quoi, en espérant qu'on fasse aussi bien. Hein. Et c'est vraiment, moi je la conseille. Je ne connaissais pas je ne connaissais pas la BD. Donc du coup, j'ai pu adhérer sans aucun problème à l'univers, et d'après ce que j'ai pu voir grâce au bonus qui était justement sur la plateforme qui diffusait les Watchmen, on a vu que déjà Alan Moore,
Dave Gibbons, les auteurs
ont quand même bien suivi le projet, ont quand même bien été sur le projet aussi en même temps, donc il y a une certaine continuité, ce qui fait que les fans de la première heure ne seront pas déçus. Et puis, on n'est pas obligé d'avoir lu la bande dessinée ni d'avoir vu le film.
Ouais, pourtant c'est un peu la suite, c'est vrai qu'il est drôle en fait.
C'est pourtant la suite, mais pourtant on n'a pas besoin de ça pour pouvoir complètement adhérer à cette série.
Ça me rassure, je vais pouvoir m'y mettre.
Exactement. Ah bah oui, là, sans aucun problème.
Donc il y a eu énormément de séries, évidemment il y en a des centaines hein, tous les ans maintenant, c'est fou. Mais voilà, moi j'ai retenu quand même Tchernobyl, Mindhunter, Watchmen, et puis il y en a eu plein, The Crown, je ne sais pas si vous avez The Boys. Enfin,
et puis il y en a certaines qu'on va essayer d'oublier aussi.
Anaïs.
Moi j'avais envie de parler de la saison 2 de You. Alors on en avait parlé l'année dernière avec Héloïse. Oui,
ça m'a pas plu.
Bah, c'est un peu particulier, on se retrouve, on suit le personnage de Joe Goldberg, qui est un homme assez perturbé, hein, il faut le dire, qui est prêt à faire n'importe quoi pour la femme qu'il aime. Donc vraiment n'importe
mais
quoi.
Mais est-ce qu'il aime vraiment, enfin, c'est
oui, 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 c'est... Bah, on pensait qu'il était vraiment attaché à la première de la saison 1, on va pas vous...
Oui, non,
je vais pas dévoiler ce
là, si tu dis la première de la saison 1, ça veut dire qu'il y en a une deuxième de la saison 2.
Bah oui. Faut pas divulgâcher.
Non, voilà. Lors de la saison 2 suit les événements de la première saison, hein. Généralement ça se passe comme ça, quoi. Avec un Joe qui débarque à Los Angeles avec l'optique de démarrer une nouvelle vie. D'effacer un peu ce qui s'est passé
parce
avant.
Que ça se passait à New York.
Ça se passait à New York. Donc il va changer d'identité et on va vite se rendre compte que bah, son passé va finir par le rattraper.
Eh oui. Hein.
Donc la saison commence très lentement pour nous présenter les nouveaux personnages. Et ce qu'il réussit à faire, c'est que ce changement de décor finalement et les nouveaux personnages, c'est un vrai succès. On prend plaisir à retrouver Joe, à découvrir ses personnages, à voir un peu... Bah, comment il essaye de changer, mais qu'en fait, c'est quand même assez compliqué. Voilà, le personnage est vraiment...
malsain.
J'ai pas vu la série Dexter. Bah, j'ai vu les premiers épisodes.
Mais Dexter, c'est différent, parce que Dexter, c'est un policier qui est un tueur en série, mais il essaye de rendre la justice à sa façon.
Ouais.
Là, ça n'a rien à voir, c'est un pervers.
Ouais, mais du coup, c'est un peu bizarre. En fait, ça nous plonge, ça nous met dans un état un peu particulier, parce qu'on a presque de la compassion ou... L'empathie ou
quoi. Waouh, moi je l'ai trouvé hyper.
Je sais pas, ou c'est moi, je suis peut-être.
Non, mais il est voyeur, il est. Ah, j'ai pas.
Et puis ce qui est intéressant, c'est la réflexion qu'il y a aussi sur toutes les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, l'image.
C'est clair, ça c'est vrai.
Voilà. Donc, bon, c'est... la première partie, c'est pas la meilleure, faut aller un peu au bout. Il y a des révélations. La fin est quand même un petit peu prévisible. Moi, je le sentais venir quand même au milieu de la saison. Par contre, bon, voilà, ça annonce la fin, annonce une troisième saison,
oui.
Avec aussi un nouveau changement. Et voilà,
des évolutions ?
Non, il n'y a pas des spoils, mais des gens qui font des suppositions sur la suite.
D'accord.
Des hypothèses, merci. C'est difficile ce soir pour moi de trouver les bons mots. Donc il y a des hypothèses sur cette fin de la saison 2 et voilà.
Ok. You. Pas confondre avec Radio You. Merci Anaïs.
Merci.
Un peu de musique alors.
Oui.
On va écouter Thomas Fersen, parce que moi j'aime bien, c'est un vieux chanteur que j'aime beaucoup dans Monde Geek Mafia sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le point.
Merci Seb.
Les passants sur son chemin soulèvent leur galure. Le chien lui lèche les mains. Sa présence se rassure. Voyez cet enfant qui bugle. Par lui secouru, et comme il aide l'aveugle à traverser la rue, dans la paix de son jardin, il cultive ses roses. Monsieur est un assassin. Quand il est morose, il étrangle son semblable dans le bois de Meudon. Quand il est inconsolable, quand il a le bourdon à la barbe des voisins qui le trouve sympathique. Monsieur est un assassin. Je suis son domestique et je classe le dossier sous les églantines. Je suis un peu jardinier et je fais la cuisine. Il étrangle son prochain quand il a le cafard. Allez hop dans le bassin sous les nénuphars et je donne un coup de balai sur le lieu du crime où il ne revient jamais. Même pas pour la frime, sans éveiller les soupçons. Aux petites heures, nous rentrons à la maison. Je suis son chauffeur, la 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 son air anodin. C'est un lunatique, monsieur est un assassin. Chez lui c'est chronique, il étrangle son semblable. Lorsque minuit sonne et moi je pousse le diable. Dans le bois de Boulogne, le client dans une valise, avec son chapeau, prendra le train pour Venise. Et un peu de repos, il étrangle son semblable. Dans le bois de Meudon, quand il est inconsolable. Quand il a le bourdon à la barbe des voisins, qui le trouve sympathique, monsieur est un assassin. Je suis son domestique. Vous allez prendre monsieur, je vais perdre ma place. Vous allez prendre monsieur, hélas, trois fois hélas. Mais il fallait s'y attendre, et je prie votre honneur humblement de me reprendre comme serviteur. Et je classerai ce dossier sous les églantines. Je suis un peu jardinier et je fais la cuisine.
Voilà, c'était Thomas Fersen avec Monsieur dans Bande Geek Mafia.
Sur Radio G 101.5, la radio qui fait le
bon. Ah, c'est superbe. Et tu le fais vraiment bien, Seb. C'est cool.
Il paraît.
Je vais relancer un petit jingle et puis tout de suite, je vous parle d'une expo.
Une expo ?
Expo !
J'aime cette petite voix.
Il a trop lu les fables de La Fontaine.
Ouais, c'est ça. Le perroquet.
Le perroquet. Coco.
Alors, il y a une expo Tolkien. Alors, c'est à Paris. Ce n'est pas à Angers, malheureusement.
Alors, faut pouvoir
s'y
rendre.
Vous ne passerez pas.
Ouais, je vous en parle. Je vous en parle parce que Tolkien, bah, c'est complètement dans l'esprit Bande Geek Mafia.
Oui,
voilà, tout à fait.
Alors, ça s'appelle Tolkien Voyage en Terre du Milieu. C'est une expo qui est à la BNF, à la Bibliothèque Nationale de France, donc à Paris. Je vous en parle parce que si vous y allez, ne cherchez pas les comédiens. Hein. Viggo Mortensen, Christopher Lee, bah, il est mort. Cate Blanchett, elle ne sera pas là. Hein. Donc cette expo de la BNF, elle est consacrée surtout à John Ronald Reuel Tolkien.
Voilà,
J.R.R. Qui est né en 1892 et mort en 1973, l'année de notre naissance. Alors, et c'est surtout consacré à son œuvre, Le Seigneur des Anneaux, Bilbo le Hobbit et Le Silmarillion. Tout ça étant un univers cohérent. Alors, évidemment, ça fait l'impasse sur l'univers visuel créé pour les films de Peter Jackson. Hein. Vous ne trouverez pas d'image du film, parce que les commissaires de cette rétrospective géante, ils ont eu l'excellente idée de retourner aux matériaux originels, hein, c'est-à-dire les manuscrits de l'universitaire anglais, sa correspondance, ses carnets, ses cartes, ses dessins, parce qu'en fait, en plus d'être écrivain, il dessinait des milliers de feuilles, en fait, annotées, raturées, gribouillées, donc c'est un fond exceptionnel, inédit, qu'on a voilà, très très peu vu et rendu accessible grâce aux descendants hein, de Tolkien, et notamment à son fils cadet, Christopher, installé en France et grand connaisseur de l'œuvre de son père. Voilà. Alors, le parcours emmène le visiteur à la découverte de la Terre du Milieu, hein, la bucolique comté, hein, avec les hobbits, mais aussi les noirceurs du Mordor,
oui.
En passant par les différentes contrées, donc les territoires, les royaumes qui composent la Terre du Milieu. Donc on croise des hobbits, des elfes, des hommes, des orques, des gobelins et autres peuples et créatures fantastiques qui se disputent le contrôle de ce vaste univers. Donc chacun fait l'objet d'une présentation spécifique avec des extraits des œuvres, agrémentés d'objets, de croquis, et alors il y a des superbes tapisseries qui ont été faites à Aubusson aussi, et puis des dessins de la main même du maître.
Pas mal.
Donc, non content d'être un littérateur exceptionnel et puis un puits d'imagination, en fait, et d'érudition, l'éminent spécialiste des langues du Haut Moyen-Âge, parce que c'était ça la spécialité de Tolkien, hein, et donc spécialiste des langues du Haut Moyen-Âge et des sagas nordiques, qu'on retrouve quand même pas mal dans Le Seigneur des Anneaux, était également un peintre doué. Il est né avec l'art nouveau et il n'a pas été insensible à cet art nouveau. Et donc, mais ses goûts, quand même, on sent qu'il le porte davantage vers les pré-raphaélites. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était des peintres anglais du 19e siècle qui s'inspiraient beaucoup de Raphaël et des peintres de la Renaissance. Et donc, on a une cinquantaine de ces dessins et aquarelles qui sont présentés pour la première fois en France. La dernière partie de l'exposition, ça permet aussi de découvrir un être étonnant derrière la statue mythologique un peu de Tolkien, le faiseur de monde, voilà, ou alors l'image du professeur un petit peu d'Oxford, voilà. C'est aussi un père attentionné. On découvre que c'était un père qui a écrit le Hobbit pour ses enfants au départ. Mmh. Et donc, en fait, pourquoi ? Parce qu'à chaque fête de Noël, il écrivait, il mettait en image des lettres, des contes pour enfants. Et c'était aussi un homme hanté par la mort, hein, profondément marqué par la Première Guerre mondiale, hein, et rescapé des tranchées, il faut le dire. Et Tolkien a donc conçu son œuvre comme une échappatoire, une source de vie, mais aussi un rempart contre l'oubli. Voilà. Donc, Tolkien Voyage en Terre du Milieu, c'est jusqu'au 16 février. Donc, courez-y, ne perdez pas de temps, il y a encore un mois, à la Bibliothèque Nationale de France, sur le site François Mitterrand, c'est à Paris, dans le 13e arrondissement. Et puis, vous pouvez aller sur le site de la BNF, www.bnf.fr.
Et en même temps, moi, je rajouterais aussi, il y a deux mois, est sortie une bande dessinée sur Tolkien, justement, mm-hmm. sur ce réalisateur qui montre justement tout cet aspect avant la création, hein, finalement, tout ce qui peut expliquer comment il en est arrivé à cette création.
Ouais, mais donc, c'est très riche. Hein.
C'est très, très riche.
Beaucoup,
hein.
Beaucoup d'érudition et de richesse chez Tolkien, voilà.
Merci Seb.
Ah bah, je vous en prie. Un peu de musique ?
Ah bah, tout à fait.
Alors là, je me fais plaisir.
Fais-toi plaisir.
On va écouter I Hate God, un groupe de métal américain d'avant Geek Mafia sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le point.
Et voilà, c'était I Hate God dans Band Geek Mafia.
Yeah.
Ça, c'est bon. Hein. Il y a des Larsen, j'adore.
Les auditeurs, une petite moins le Larsen.
Oui, mais... une info pour tous les goûts, c'est Band Geek Mafia, c'est éclectique. C'est
oui,
ça.
Oui, non. Non,
c'est... Alors justement, en parlant d'auditeurs et d'auditrices, hein, Marie de Mur et Rigny nous demande, William Scheller, maman est folle, Je sais, Eric, on a ça en magasin. Alors, bon, pourquoi William Scheller? Je pense que c'est vraiment... j'avais adoré Un homme heureux, tout le monde connaît.
Oui.
Mais Maman est folle, c'est une chanson qui est moins connue, mais qui est vachement chouette. C'est une bonne idée. Alors, on va l'écouter. Voilà, oui. On se fait plaisir. Et on fait plaisir aux auditeurs. On écoute William Scheller dans Band Geek Mafia, si ça veut bien fonctionner. Oui, c'est parti. 101.5.
La radio qui fait le point.
Maman est folle, on n'y peut rien, mais ce qui nous console, c'est qu'elle nous aime bien. Quand elle s'envole, on lui tient la main, comme un ballon frivole au gré du vent qui vient. Tais-toi, Léopold, surtout ne dis rien. Les gens dans leur cache-colle n'y comprendraient rien. Quand maman rigole, on oublie qu'on a faim, que c'est l'heure de l'école, qu'on a peur des voisins. Elle est notre idole, on en a le cœur plein. Faut pas qu'on nous la vole ou qu'on l'emmène au loin. Tais-toi, Léopold, surtout ne dis rien. Les gens dans leur cache-colle n'y comprendraient rien.
Et voilà, c'était William Scheller, Maman est folle, c'était pour Marie. Live en 1991, c'était l'album en solitaire, évidemment, celui qu'il a rendu. Enfin, il était déjà connu, mais qu'il a vraiment rendu célèbre. Voilà. C'était Band Geek Mafia, et oui.
Et oui, déjà.
Mais vous voulez peut-être un petit générique de fin, après tout?
Oh, bah oui, vas-y.
On a le droit. Ah. C'était Band Geek Mafia. Notre émission Infoculture tous les mercredis à 19h sur Radio G. Salut Seb.
Salut Seb.
Salut Anaïs.
Salut les Seb.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et restez à l'écoute de Radio G.
Tout à fait.
Alors Seb, on écoute quoi pour finir l'émission?
Oh, moi je pense à un petit hommage là, parce qu'il y a 2 ans, on perdait quand même une grande chanteuse.
C'était deux, il y a 2 ans.
Deux ans déjà. Eh oui, Dolores nous quittait de l'Est, Odorian. Donc on va écouter un petit cranberry, Linger des cranberries.
Merci Seb.
De rien.
Allez, salut.
Salut.
À la semaine prochaine.